Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Donc, vraiment, je veux remercier le Seigneur pour ce matin. Amen. Parce qu'on a besoin d'être ensemble. Et je suis content de que ce matin, eh bien, on ait pu aussi se laisser guider dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais que l'Église soit vraiment un lieu où on est attiré et où on a envie de rester et de venir souvent. C'est quelque chose d'important. Vous savez que cette année, j'ai décidé que nous allions vraiment essayer de combattre contre l'absentéisme régulier de nos Églises. Et parce qu'on a besoin en tant que chrétien de pouvoir grandir, de pouvoir nous renouveler dans la présence de Dieu. Et l'Église, c'est pas seulement un lieu où on vient à la messe ou à confesse, mais l'Église, c'est vraiment un lieu où on peut vivre des choses, déjà pour soi, mais ensuite on peut vivre des choses aussi pour les autres. Et un des grands fléaux qu'il y a dans notre région, c'est l'occultisme. C'est les gens, parce qu'il ne se passe rien ou parce qu'à un moment donné, ils sont confrontés à un problème physique, à un problème de santé, eh bien, ils vont voir des diseurs de bonne aventure, des guérisseurs, ou des rebouteux. Et il y a des gens qui sont franchement mauvais, puis il y a des gens qui pratiquent ces choses-là, mais qui ne savent pas que c'est pas bien, ils ne savent pas à quoi ils touchent. Et parfois, il y en a. Mais beaucoup, à chaque fois, tout le monde vient en disant, voilà, on est là pour faire du bien. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, on se rend compte que c'est pas parce qu'on a quelque chose de bien qui nous arrive. Alors Myriam, c'est ma petite sœur, elle est là-bas derrière. Et comme je vous disais, je l'aime beaucoup et je suis très content qu'elle soit ici ce matin. Et comme je vous disais, quand on était petits et jeunes, on servait le Seigneur ensemble. Et elle avait fait beaucoup pour Dieu, surtout pour les enfants. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'elle soit avec les enfants là-bas. Alors Myriam, sois vraiment la bienvenue. Hein. Merci pour l'accueil que vous lui réservez. Tu étais venu avec Jimmy, non, aussi? Il est là? Ah, Jimmy, voilà. Alors Jimmy, c'est mon cousin, il va se lever aussi. N'est-ce pas? Lève-toi un peu, et c'est la première fois aussi qu'il vient. Alors sois bienvenue. Hein. Sois bienvenue. Je vous remercie. Alors, je vous disais que le problème, c'est que beaucoup de gens cherchent parfois des solutions. Et sans savoir, ils vont voir à des mauvaises sources. Il y a parfois des et c'est pas toujours parce qu'il y a un résultat qui se produit que ça veut dire que c'est bon. Parce que le diable, est capable aussi de faire des imitations sur les choses de Dieu. On le voit dans la Bible entre Moïse et ensuite les sorciers de Pharaon. Moïse fait un signe miraculeux et les sorciers de Pharaon font le même signe miraculeux. Alors les gens sont complètement dans... Ils peuvent se laisser facilement tromper. Quand Moïse jette son bâton et son bâton... Moïse jette son bâton, pardon, je vais y arriver. Et puis, hop, ça devient un serpent. Alors les sorciers rigolent. Ah, mais moi aussi, je sais faire ça. On apprend ça chez Harry Potter. Je sais pas comment ils disaient ça à l'époque, n'est-ce pas? Et puis, voilà, qu'ils jettent leur truc. Et puis, boum, ça y est, ça devient pareil. Et le problème, c'est que... le peuple peut vraiment être comme ça, en se disant, mais est-ce que c'est juste? Actuellement, il y a toute une mode qu'on appelle le syncrétisme. Est-ce que vous savez ce que c'est le syncrétisme? Le syncrétisme, c'est lorsqu'on mélange tout, c'est lorsqu'on dit, toutes les religions sont bonnes,
oh ben de toute façon, on ira tous au paradis, ou on s'en fout ce qu'on est en train de croire, le principal c'est de croire en quelque chose. Et c'est pas comme cela, parce qu'il y a des religions qui vraiment sont mauvaises, qui font du mal, qui ramènent les gens dans un esclavage et qui sont un vrai danger. Et puis, il est important que nous puissions savoir exactement à quelle source nous allons boire. Et lorsqu'on vient à Christ, eh bien, parfois, il y a des sacrifices à faire. Parfois, eh bien, il y a des choses qu'on ne fait plus. Et beaucoup de gens qui allaient voir des guérisseurs, eh bien, ont décidé de ne plus y aller. Et même des gens qui étaient dans l'occultisme ou qui étaient guérisseurs, eh bien, quand ils se convertissent, la Bible les invite à lâcher la pratique qu'ils faisaient au nom de Jésus-Christ afin d'avoir la purification de leur vase, afin de comprendre vers où et quelle source ils vont travailler. Et puis ensuite, eh bien, ils vont pas rester comme ça, parce que Dieu veut que nous soyons tous efficaces et pratiques pour la parole de Dieu. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'église ne doit pas être un lieu seulement où on va là au culte, ou alors on passe un bon petit moment, etc. Mais l'église, ça doit être un lieu où les choses de Dieu se passent, où le miracle prend place, où l'onction vraiment agit, où la puissance de Dieu est révélée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il n'y a rien de plus tragique que d'aller dans une église et de ne jamais rien voir, ou de ne pas jamais avoir de témoignage où la puissance de Dieu se répand. Et il y a 2 jours, je vous disais, j'avais des amis des États-Unis qui m'ont téléphoné, parce que lorsque je suis allé prêcher aux États-Unis l'année dernière, l'onction de Dieu était là, et il y a eu tellement la gloire de Dieu qui s'est présentée que des gens ont appelé en France des gens de leur famille en disant: il faut aller à la conférence de Pentecôte, parce que là, eh bien, il y aura des moments de puissance, il y aura des moments avec les pasteurs, et il faut que vous soyez guéris. Et il y avait une dame qui s'appelle Edith, qui est à Toulon, qui est venue, et elle était en cancer terminal, un cancer du sein. Et les rayons l'avaient tellement brûlée qu'elle avait la peau complètement noire. Elle pouvait à peine se vêtir à cause de la sensibilité de la peau. Et lorsqu'elle est venue, pendant les 3 jours, vraiment, elle a été touchée. Et puis, j'ai pu prier pour elle. Et puis, après, elle est repartie, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Et justement, ces derniers jours, je me posais la question: tiens, qu'est-ce qui est arrivé? On connaît Gildas, qui est là-bas, qui s'est levé de sa chaise roulante. Amen, hein, relève-toi encore une fois, Gildas. Il y a quelques mois, il était dans une chaise roulante. Et Dieu a vraiment amené un miracle dans cet homme qui va vouloir servir le Seigneur. Alors moi, je voulais encore entendre. Et cette semaine, elle m'a téléphoné. Elle a essayé de me joindre plusieurs fois. Alors je l'ai appelée. Elle m'a dit: pasteur, tu peux pas savoir. Ça y est, la guérison est confirmée. Les médecins n'y comprennent rien. Les médecins, surtout en France, ils vont tout faire sauf reconnaître que vous avez un miracle. Là, Gildas, il est en train de faire prouver qu'il a un miracle. Il n'y en a aucun qui veut se mouiller en disant que c'est possible. Ils comprennent pas. Ils disent: non, mais ils lui refont des radios. Ils essaient de trouver. Non, non, pas moi. C'est peut-être un miracle, mais moi, je le dirai jamais. Ça leur arracherait le mot de la langue. Tu connais bien le milieu médical. C'est comme si, en France en tout cas, c'est comme si ça leur arracherait. Mais Dieu fait des miracles aujourd'hui, et Dieu agit puissamment. Et cette femme, Edith, a été pleinement guérie. Amen. Et sa vie est réellement bouleversée. Elle est changée. Et maintenant, eh bien, ça va me donner encore plus de travail, parce qu'elle m'a dit qu'elle est en train de contacter toutes les églises du coin pour quand j'irai au mois de février. Donc je ne sais pas, peut-être on va plutôt faire une campagne d'évangélisation. En tout cas, le Seigneur est puissant. Et le lieu de l'église, l'église est un lieu où il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Alors bien sûr, on ne va pas faire ça, peut-être tous les cultes. Et chez nous, on n'a pas un culte qui est traditionnel. Un jour, ça change. La semaine dernière, c'était différent. Puis aujourd'hui, au moment où il fallait arrêter, on a senti que le Saint-Esprit voulait continuer. Et hop là, toute l'église est partie. Et ce qui est important, c'est pas que ce soit seulement les leaders du groupe de louange qui disent il faut qu'on essaie d'amener le peuple dans la louange. Il faut que ce soit quelque chose de naturel. Non seulement pour la louange, mais également pour être utile pour le royaume de Dieu. Parce que nous avons tous quelque chose à faire. Nous avons tous quelque chose à donner. Et même si parfois la vie chrétienne n'est pas facile, on peut passer par des conflits, on n'est pas d'accord avec tout, eh bien, si tu as reçu et si tu veux recevoir la vie de Christ, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit, tu deviens comme un figuier sec. Or, on ne peut pas se convertir sans l'Esprit. La Bible le dit. Si tu dis « Abba, Père », c'est par l'Esprit. Je crois que quand on se convertit, on reçoit l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint qu'on est converti. Mais ensuite, il faut vivre dans une autre dimension. Il faut rentrer, et c'est une seconde dimension que certains ont, je pense... Je n'aime pas dire ce mot-là, baptisé du Saint-Esprit. Je préférerais employer marcher dans une nouvelle dimension, être rempli et puis pratiquer les dons spirituels. J'aime beaucoup plus que ça, parce que sinon ça a fait des chrétiens de première zone, des chrétiens de seconde zone. Après, il y en a qui nous ont dit que si tu parlais en langue, la glossolalie, eh bien alors tu étais baptisé du Saint-Esprit, puis si tu parlais pas en langue, tu n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Or, le parler en langue, c'est un don, et c'est un don. Pourquoi on le parle plus facilement? Parce que c'est un des plus petits dons, c'est le premier don, c'est la raison pour laquelle c'est le premier qui se manifeste, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'Esprit. Donc si tu as reçu l'Esprit au fond de toi, le Saint-Esprit veut que tu utilises. Et le Saint-Esprit, c'est pas seulement un petit souffle, quelque chose de dire, oh, ben, c'est cool, moi j'ai l'Esprit et tout. C'est, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Amen. Et la Bible dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et la Bible dit, nous dit aussi que ça n'est pas que par les discours persuasifs de la sagesse que nous avons le loisir de pouvoir entraîner la transformation de la vie de quelqu'un, mais c'est par la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Donc dans l'Église, il faut bien sûr la connaissance, et vous devez rechercher cette connaissance pour avoir cette stabilité de l'Évangile en vous, mais vous devez aussi rechercher les dons les meilleurs, nous dit la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur nous d'ôter la veste. Le Seigneur nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer, parce que je sais que je n'aurai pas le temps de terminer tout aujourd'hui, mais je vais commencer à vous parler dans ces prochains jours, si vous êtes intéressé, de la puissance de Dieu et des dons du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu veut que chacun de nous, nous puissions exercer la puissance du Saint-Esprit. Le problème, c'est que quand on découvre que Dieu peut nous utiliser parfois avec un don. Alors parfois, il y a des gens, ça y est, ça leur monte à la tête. Et alors, ils veulent faire n'importe comment, ils veulent faire n'importe quoi. Et c'est pas comme ça que ça marche. Pardon. Merci beaucoup. Je suis un peu enrhumé, hein, je suis désolé. Il y a eu des changements de température importants. Et la Bible nous enseigne que Dieu veut que la liberté dans l'Église puisse s'accroître. Que l'Église soit un lieu de puissance, que nous puissions tous pratiquer des dons spirituels, mais elle nous dit aussi que tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi dans l'Église de Christ. Il n'y a pas longtemps, des gens viennent de quitter l'Église en disant « Oui, il n'y a pas l'Esprit parce qu'on ne peut pas intervenir quand on veut, prophétiser, faire un peu comme on ressent. Il n'y a plus les émotions dans l'Église. » J'ai dit « Ben dis donc, celle-là, elle est vraiment rebelle pour dire ça, parce que s'il y a une église où il y a des émotions, ben il y en a bien ici. Il y a mon ami le pasteur Francis Dognon qui s'est présenté tout à l'heure. Il vient aussi d'une église à Paris. Il a été pasteur assistant pendant longtemps dans une église à Paris que vous connaissez tous. C'est l'église de Belleville, où là-bas aussi l'onction de Dieu agit. Et c'est un lieu connu pour cela, n'est-ce pas? Pour son ouverture et pour la gloire de Dieu qui se présente. Bon, eh bien, je pense qu'on peut dire que nous avons des points communs, c'est que nous aimons la liberté de l'esprit. Mais il y en a toujours qui confondent le bazar, pour pas dire le, comme on dirait quand on est à la maison, n'est-ce pas, avec la liberté. Mais c'est pas comme cela, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous invite vraiment à libérer la puissance de Dieu, et surtout, eh bien, de savoir que la venue du Saint-Esprit sur nous s'accompagne de signes extraordinaires. Et la pratique de dons qui était même parfois inconnue ou qu'on n'a jamais pratiqué auparavant. Et quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, eh bien c'est une expérience qui ne doit pas rester sans lendemain. Parce que il y a des gens qui pensent que le baptême du Saint-Esprit c'est une émotion, ah, on est bien soudainement, et puis après, ben voilà, ça y est, on est des chrétiens d'une meilleure classe, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais c'est pas ça. Le Saint-Esprit, ça a un but. Dans Actes 10, 38, la Bible nous dit « Et comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth ?» Et il allait dans toute la région, guérissant les malades, chassant les démons, délivrant ceux qui étaient chargés. Et l'Esprit de Dieu était avec eux. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, il doit y avoir des dons qui se manifestent, une manifestation de la puissance de Dieu. Comment vais-je vous dire, ah ben, il m'est déjà arrivé d'avoir le don de guérison s'il n'y a jamais un malade qui est guéri? Ah, mais vous allez voir que pour apprendre, c'est quelque chose. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique, un jour, comme il y avait les paroles qui étaient là, puis Dieu commençait à agir. Il y a des gens qui sont venus de loin pour que je puisse prier pour eux, pour leur guérison. Et la fille avait des problèmes de vue très importants. Et donc, ils sont venus avec ses parents. Et puis moi, j'ai prié, j'étais étudiant et j'avais vraiment cette foi. Et c'était vraiment fort et j'étais vraiment fier qu'ils viennent à l'époque quand même, parce que vous savez, quand on est un petit étudiant comme ça, puis j'étais dans une église où il y avait des grands ministères, alors ça me faisait drôle et que ça. Et puis quand j'ai prié vraiment, je sentais vraiment, la fille pleurait et tout ça, il se passait quelque chose. Puis quand ils sont repartis, elle voyait pire après qu'avant.
Et c'est vrai, un sacré nom. Elle voyait pire après. C'est-à-dire que c'était pire la situation après qu'avant. Et je peux vous dire que là, pour l'humilité, ça fait du bien. Hein. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais rencontré encore quelqu'un qui a prié, puis ça s'est aggravé. Hein. Alors, bon, tout à l'heure, je dois prier pour les malades. Alors, bon, vous ne barrez pas en courant, hein, parce que depuis ce temps-là, le Seigneur a travaillé mon cœur. Il a fait quand même des choses. Mais voilà, au moins, j'avais envie de faire quelque chose. Et je pense que vous aussi, il faut que la passion de Dieu, la passion de ce que Dieu veut faire, eh bien, habite vos cœurs. Et j'aimerais bien que dans notre église, et je regrette un peu qu'on soit si peu nombreux ce matin, parce que je voulais le dire à tout le monde, mais bon, il y a eu des fêtes, il y a plein de choses, alors on comprend, mais je voudrais bien que dans notre église, on puisse grandir en maturité dans l'exercice des dons spirituels. Mais ça ne veut pas dire que vous ferez n'importe quoi, parce qu'on veut rester biblique. Il ne faut pas commencer du jour au lendemain de venir et dire « Ah mon frère, tiens, je t'impose les mains !» Puis t'es content, puis tu vas « Ouais, ouais, t'as vu, je suis quelqu'un, ouais, ouais !» C'est pas comme cela. À l'extérieur de l'église, tu peux prier pour des non-croyants, etc. C'est normal. Mais à l'intérieur de l'église, il y a un ordre à respecter. Par contre, tu peux faire comme ont fait certains frères ce matin. Ils sont venus, ils ont dit « Pasteur, voilà, on ressent telle chose. » Et puis nous, nous pouvons sentir dans le Seigneur et on peut dire « Ah ben là, ben, on pense que c'est pas le moment et on a le droit. » Et puis tu te vexes pas. Parce que personne n'a la science infuse, surtout dans les dons spirituels, c'est quelque chose de délicat. Mais par contre, si on ressent que c'est quelque chose du Seigneur, ben on l'a fait. Puis si cette semaine, on entend aux informations des bonnes nouvelles, on fait « Yes !» Mais par contre, ceux qui ne le font pas, et on ne peut pas savoir parfois les conséquences de la désobéissance, c'est grave. Donc, le Saint-Esprit, la Bible dit, est donné à chacun. On va prendre un texte. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, que vous connaissez, c'est un texte qui parle beaucoup des dons spirituels. Et au verset 7, la Bible dit « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Est-ce que vous répétez cela avec moi? Répétez après moi. « En chacun, allez tout le monde s'il vous plaît, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Et là, vous avez vraiment la réalité de l'évangile. C'est-à-dire que Dieu veut utiliser chacun. Il veut vous utiliser, ma sœur. Il veut vous utiliser, ma sœur, mon frère. Mais c'est en vue de quoi? Du bien commun. Un don spirituel, ça va jamais être pour toi, seulement pour ton simple plaisir ou pour être quelqu'un. Pour démontrer que tu as une position, que tu as un ministère. Ça n'a rien à voir. Et c'est pourquoi on ne peut pas rester seul à la maison, parce que la piété individuelle doit se décliner dans une piété commune. Et dans une piété qu'on appelle l'Église, le corps de Christ. Et personne ne peut considérer que les dons spirituels ne sont pas pour lui. Et là, je m'adresse aux Normands. Mes chers Normands, écoutez-moi bien. En termes de dons spirituels, il ne faut pas d'hésitation en permanence, sinon vous perdez le feu. Vous perdez le don. Parce que si vous n'y allez pas une fois, vous n'y allez pas deux fois, « Oh, ben c'est pas pour moi, ben j'irai peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Eh bien, vous allez perdre le don que Dieu veut donner parce que vous allez attrister l'esprit. Et c'est pénible lorsque, par culture, puisque c'est notre culture ici en Normandie, nous avons des hésitations en permanence. Le Seigneur nous dit bien que nous devons apprendre. Donc si nous apprenons, nous avons le droit de faire des erreurs. Et c'est pourquoi nous avons besoin des conseillers, des coachs, nous avons besoin des pasteurs qui sont là pour nous bénir et nous conduire. Mais à partir du moment donné où on fait les choses correctement, on a le droit de se tromper. Parce que vous allez me dire, mais comment je sais que ça vient de Dieu? Eh bien oui, au début, t'hésites. Parce que les sources d'inspiration peuvent venir d'autres choses que de Dieu parfois. Et cependant, eh bien, le Saint-Esprit nous invite à ne pas considérer que ces dons ne sont pas pour nous. Et Dieu nous a dit qu'il voulait que tous nous soyons rempli de ces dons et que nous les pratiquions. Parce que la Bible nous dit « Et mettez en pratique l'évangile et ne vous bornez pas à l'écouter. » Seulement, c'est quelque chose qu'on comprend difficilement. Alors, là, je parle des dons spirituels, mais c'est pareil pour toutes les charges dans l'église. Comment pouvons-nous oser rester des mois dans une église? Alors, vous allez me dire « C'est parce qu'on nous a toujours fait ça Mais oui, mais maintenant ça change. Comment pouvons-nous oser rester des mois dans une église sans vouloir s'engager dans quelque chose pour le Seigneur? Mais c'est criminel. Et je pèse mes mots.
Parce que pendant que vous, vous bénéficiez de la grâce, d'autres n'ont pas ce privilège. Il est criminel de rester dans sa rébellion, sa petite observation de loin, sa petite tranquillité, sa petite assurance vie. Mais vous êtes des hommes et des femmes remplis de dons. Vous avez reçu non seulement des dons, vous pouvez recevoir en les recherchant des dons spirituels, mais vous avez déjà reçu des dons naturels qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est pourquoi l'Église doit être cette équipe, parce que c'est par la puissance de Dieu que ces choses se passent. Si l'année dernière, Thierry n'avait pas fait l'effort d'organiser un voyage à Chalon-sur-Saône, peut-être que Jean-Charles n'aurait pas été touché comme il a été. Et aujourd'hui, notre ami Jean-Charles est parmi nous et il sert le Seigneur et il veut que sa vie soit utile après ce qu'il a vécu. Et la semaine prochaine, il prend son baptême pour faire le plus grand bras d'honneur au diable qu'il a jamais fait de toute sa vie. Alléluia ! Amen ! Et donc, il a fallu que quelqu'un ose faire quelque chose et tu ne peux pas savoir ce que Dieu peut faire lorsque tu oses quelque chose. Et peut-être que tu es perfectible. Cette semaine, j'ose le faire parce qu'elle va me pardonner, parce qu'elle m'aime beaucoup, maman pasteur. Et cette semaine, j'étais avec Caroline et on écoutait des vidéos. Et on te voyait l'autre jour à Pentecôte, enfin pas cette année, mais l'année d'avant, je crois. À la fin de Pentecôte, ça devait être le lundi, vous aviez des valises sous les yeux, comme ça, vous avez du mal à les porter, même les valises. Et puis à un moment donné, tu chantes quand même de tout ton cœur, et on voit que tu y vas de tout ton cœur, n'est-ce pas? Et puis à un moment donné, on l'entend chanter, puis comme ça, hop là, ça dérape. Et puis une autre fois, comme ça, je dis, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit, tiens, je vais rigoler, et puis je vais lui apporter le DVD pour lui montrer comme la grâce de Dieu est venue sur sa vie, puis que maintenant, ça va quand même bien mieux, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé ça tout mimi, comme on dit. Parce que moi, j'ai admiré plus l'effort que tu as fait à ce moment-là que ce dérapage passager, n'est-ce pas, qui s'est fait. Et puis aujourd'hui, ces dérapages, ils arrivent presque plus. Et puis, tu es devenue une merveilleuse. Elle est bonne, celle-là. Hein, tu es devenue une merveilleuse directrice de louange, n'est-ce pas? On est content que Christine ait ce ministère. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Et on bénéficie de son ministère. Donc, si elle ne libérait pas cette puissance, l'Église ne serait pas bénie comme cela. Alors, il y a toujours des conséquences au baptême du Saint-Esprit, soit d'une façon immédiate ou dans les jours qui suivent. On a beaucoup d'exemples bibliques. Dans Actes 2, on voit le Saint-Esprit descend, puis il commence à parler, puis il y a des conversions dans Actes 10, 14 aussi. Et donc, les signes les plus courants du baptême du Saint-Esprit, et lorsque vous vous convertissez, vous faites baptiser, vous ne pouvez pas vous convertir puis dire « Oh ben j'attends pour le baptême, je sais pas, je verrai bien si je m'engage ou pas. » Sinon, c'est que vous n'êtes pas vraiment converti. Donc, si vous êtes converti, vous devez vous faire baptiser. La Bible dit que ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont baptisés seront sauvés. Et les signes les plus courants sont une paix intérieure. Ça, c'est le premier signe du Saint-Esprit. La joie aussi. La joie intense, et on est appelé en tant que chrétien à la garder. Et moi, je comprends pas les chrétiens, vous leur demandez toujours, ça va?
Non. J'ai mal. C'était dur cette semaine.
Ben, bienvenue au club!
Hein, mais tu peux pas me comprendre?
Ben non, mais moi aussi, mais bienvenue quand même!
Putain, tu dis, c'est quoi l'esprit qui est en eux?
Hein, l'esprit d'entre eux, c'est le sponsor des jus de citron.
Ou des vinaigres. On dirait que le vin nouveau s'est transformé en vieux vinaigre.
Alors, ça va pas. S'il y a l'esprit, il y a la vie. Et s'il y a l'esprit, il y a la liberté au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour cela que vous devez apprendre à votre enseigner, à votre âme, de dire, dis donc, mon âme. Et moi, quand je parle à mon âme, je regarde toujours mon nombril. C'est-à-dire, il a mal placé son âme à lui, hein? Mais je vous assure, ça fait du bien de regarder son nombril de temps en temps. Puis tu lui dis, dis donc! De costère! Oh!
Parce que c'est l'ego, vous voyez? Le moi-je, celui qui pense qu'il a tout compris, puis qui se plaint.
Tu vas arrêter de te plaindre! Tu vas regarder ton Christ et sa gloire et tu vas te renouveler. Hein. Allez hein. Ça fait du bien de temps en temps. Puis si tu râles, je jeûne. Oh non, non. Si tu râles encore, si tu te plains, je jeûne. Et puis tu vas t'éduquer. Oh non, s'il te plaît. Si, non. Alors t'es content? Oui. Bon, voilà, je jeûne pas. Hein. Ah, il n'y a rien de tel, hein. Tu dis à ton estomac et à ton ego que tu vas jeûner, oh, il se calme tout de suite. Parce que il faut maîtriser votre âme. J'ai eu une semaine aussi difficile, j'avais la tête dans le pâté. Avant-hier, j'ai écrit pendant 14 heures. Vous savez que je suis en train de terminer mon premier livre. J'ai déjà commencé mon second, parce que j'hésite entre les deux. Et je suis arrivé à la maison, j'avais la tête comme ça, pété en quatre. Alors si je voulais, je pouvais venir avec la tête comme ça, ça va? Non, je suis fatigué. Mais la fatigue, c'est parce que tu penses que tu es fatigué, que tu es vraiment fatigué. Et parfois, tu es peut-être vraiment fatigué, mais tu te dis, bon, ben, allez, ça va, j'en remets un coup, puis c'est bon, c'est parti. Puis sinon, tu vas dormir un bon coup, mais tu restes de bonne humeur. L'esprit donne la joie, l'esprit donne la liberté. Amen. Mais la liberté, c'est pas l'anarchie. Et c'est ça que certains ne comprennent pas. Cette semaine, j'étais au téléphone avec un paroissien qui passe par une période difficile. Il hurlait au téléphone et puis il comprenait pas comment on pouvait avoir une structure dans l'église. Et comment nous pouvions diriger. Il appelait ça de la manipulation. Mais je lui dis, mais regarde la parole de Dieu, mais je la connais, me disait-il. Et puis finalement, je lui ai proposé, on va faire des études bibliques ensemble, parce que le pauvre, il est en danger. On confond la liberté avec n'importe quoi, avec les émotions. C'est pas comme ça. Mais l'Esprit de Dieu nous amène une véritable liberté pour le bon sens et pour que l'Église, le commun, puisse être en pleine croissance. Et lorsque le Saint-Esprit nous touche notre cœur de façon profonde, eh bien, il bouleverse nos sentiments, c'est une réalité, mais il bouleverse aussi notre avenir. Et si vous voulez laisser Dieu agir et vous croire inspiré par le Seigneur, il est primordial, il est impérieux de laisser Dieu vous transformer. Et donc, il y a plusieurs dons que Dieu veut développer, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels. On va le lire, on reste dans 1 Corinthiens 12 et au verset 11, on va lire quels sont les dons spirituels. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour fonder un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre, d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en faudrait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'être pour autant, d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était œil, comment le corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Vous imaginez si on n'était que des oreilles? Pour marcher, on serait obligé de faire comme ça, comme des limaces. Ah, on verrait rien, on n'entendrait rien. Enfin, on n'entendrait que tout, quoi. Puis on toucherait rien. Ce serait horrible, hein? Si on n'était que des nez. Poil au nez. Ah, hein? Dès que tu disais quelque chose, un poil au nez, mais ce serait laid. Vous imaginez? Comment tu t'appellerais? Moi, ce serait Monsieur Tarin. Comment ça, gros Tarin, n'est-ce pas? Hein? Monsieur Pif. Hein? Et ce serait horrible. Eh bien, il y a des églises, c'est un peu comme ça. Il faut toujours tous être pareils, faire tous la même chose. On veut tous avoir le même don. Ah, il y en a qui pensent que être serviteur de Dieu, c'est obligatoirement prêcher. Tout le monde veut prêcher. Et alors, on regarde avec dédain celui qui s'occupe de la beauté du temple et de prendre soin du temple, comme si c'était une œuvre subalterne. Mais mes amis, il n'y a pas de subalterne, il n'y a que des serviteurs. Amen. Et je le dis et je le proclame. Et tout ce que vous faites, faites-le non comme pour des hommes, ni avec la mentalité des hommes, ni avec les standards des hommes ou leur analyse, mais faites-le comme pour le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Et donc, il faut arrêter dans l'église de regarder Dieu. Toi, t'as combien? Bac plus 7. Ça va, ça va. Et toi, t'as combien? Moi, j'ai bac moins 7. Ah bon? Oh. C'est pas comme ça. Nous sommes tous frères et sœurs et il n'y a pas de favoritisme. Nous avons des capacités différentes et c'est pourquoi nous devons les exercer de manière différente, n'est-ce pas? Il y en a qui ont la capacité pour les affaires, mais qu'ils soient des bons hommes d'affaires. D'autres qui ont les capacités pour être cuisiniers, qu'ils soient des bons cuisiniers, mais que tout ce que vous le faites pour le Seigneur. Amen. Mais dans l'Église, il n'y a pas de comparaison comme ça. Ce qu'il faut, c'est que l'esprit que nous avons reçu nous amène à la puissance et nous amène à la pratique. Et ensemble, nous servons le Seigneur avec joie. Et je le répète, je ne veux plus qu'il y ait des gens dans l'église qui ne fassent rien. C'est criminel. Et les églises où tout le monde doit être exactement pareil pour être accepté, c'est comme si c'était des églises où c'était que des oreilles. Ou que des nez. C'est horrible. Donc c'est pas possible. Nous sommes un corps et nous sommes tous différents. N'essayez pas de reproduire quelqu'un. Vous êtes différents. Mais trouvez-vous en Christ. Pas pour rester des individualistes, mais pour participer à la croissance de ce corps. Vous comprenez? Amen. Et c'est pour cela qu'ensuite Dieu va manifester sa puissance. Quand on fait des campagnes d'évangélisation et qu'on est tous ensemble en train de travailler, il y a une puissance qui est encore plus forte que d'habitude. Pourquoi? Parce que Dieu est différent que d'habitude, il est de meilleure humeur, il ne s'est pas levé du pied gauche ce jour-là. C'est parce que nous sommes tous au travail. Amen. C'est le même principe pour les offrandes. Quand il y en a quelques-uns qui sont radins, là, qui n'ont pas compris encore qu'ils sont sous la malédiction s'ils ne sont pas généreux avec Dieu, ils sont comme ça. Eh bien, ils peuvent bloquer tout le corps parce que soudainement, on ne peut pas embaucher un autre pasteur pour s'occuper des personnes âgées, par exemple. Et puis voilà. Donc, c'est tous ensemble. Et Dieu, lui, il n'a pas dit qu'il y a l'impôt sur la fortune pour les plus riches dans l'Église. Et puis, il y a le RMI pour les plus pauvres spirituels. Alors, vous pouvez ne rien donner parce que vous êtes les pauvres. Hein. Oh, c'est triste d'être pauvre. Pauvre, ce n'est pas une calamité, normalement ça ne doit pas durer longtemps en Christ. Alors Dieu, il est juste, il a dit, vous donnez tous la même part en fonction de vos revenus, comme ça c'est le même effort. Amen. Et bien quand on fait comme ça, on travaille en même temps à l'édification du corps, et quand nous avons ça comme ça, il ne faut pas dire, ah ça c'est l'église du pasteur de Coster, non c'est aussi la tienne. Il y a parfois des gens qui lui disent, pasteur, vous... Dans votre église, je dis, mais dis notre église, que ça ne va pas t'arracher la langue. N'est-ce pas? Ici, c'est la maison à tout le monde. Ça ne se dit pas en français, hein, mais c'est la réalité. Alors, dans les dons du Saint-Esprit, il y a 9 dons, et on va les lire. À chacun, au verset 7, se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre le Saint-Esprit donne une parole de connaissance, l'Esprit donne à un autre le don d'exercer la foi d'une manière particulière, à un autre le même Esprit donne de guérir les malades, à un autre il est donné de faire des miracles, à un autre, il reçoit une activité prophétique. À un autre, le discernement de l'esprit. Et ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues. Et il est donné à d'autres d'interpréter les langues. D'accord? Une autre traduction parle plus en termes de style, de liste, n'est-ce pas? Alors, vous avez 9 dons spirituels. De la même manière, vous avez 9 fruits de l'esprit. La patience, la douceur, la bénignité, la maîtrise de soi, etc., etc. Mais on ne parle pas des fruits de l'esprit aujourd'hui. Et... Donc ces 9 dons peuvent se regrouper en général en 3 grandes familles. La première famille, c'est ce qu'on appelle les dons d'inspiration. Dites-le avec moi, les dons d'inspiration. Les deuxièmes, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation. D'accord? Et les troisièmes, c'est les dons de puissance. Donc, comme vous le savez, il y a une graduation qui se passe. Alors on va commencer aujourd'hui à parler un petit peu par le don des langues. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, je ne vais pas faire pendant très longtemps, mais je reviens visiter votre église une fois et qu'on me donne le temps de prêcher, je,
Non, mais je dis ça au pasteur Alexandre Baron, parce qu'à chaque fois que c'est lui qui préside, quand je prêche, j'ai pas le temps de prêcher. Puis il me dit, ah, pasteur, c'est comme ça ici. Hein. Est-ce que j'aimerais... parce que je pense, je sais pas si j'ai... Vous avez le temps ou pas? Vous avez le temps? On continue alors? Ah, c'est cool. Il est que midi. Ouais, c'est vrai, il y a des fois, on va jusqu'à 2 heures, hein, mais là, je vais pas vous faire le coup. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire tout à l'heure, c'est avoir un temps, si vous voulez prendre le temps, où on puisse prier avec vous pour faire des onctions d'huile. À moins qu'on le fasse la semaine prochaine. Non, pas le matin. Ben, je verrai tout à l'heure, d'accord? Mais normalement, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui. Mais je vais d'abord vous parler du don des langues. Vous entendez, si vous venez pour la première fois dans l'église, parfois des gens qui parlent d'autres langues. Alors, vous essayez de vous souvenir de vos cours de latin. Moi, je me souviens asinus es, ça veut dire t'es un âne, hein, ça je me souviens bien. Je pense que c'était la prof qui devait peut-être me le dire très souvent. Mais sinon, si alguien te habla así, por ahí te estás pidiendo lo que está diciendo, y te dices, bueno, qué raro que este esté hablando así en esta iglesia porque no habla francés. Tu te dis, mais de quoi il parle celui-là, dans cette église-là, il parle dans une autre langue, et puis moi je comprends rien, c'est quoi, c'est du chinois, ou souvent on me dit, pasteur, vous parlez en hébreu. Oui, oui, oui. Maintenant je peux plus le dire parce qu'il y a les laïcs qui sont là, alors ils vont vérifier si vraiment on parle hébreu ou pas. Et puis parfois, eh bien, vous pouvez entendre parler d'autres langues, eh bien, c'est tout simplement qu'il peut y avoir des inspirations où on peut entendre des langues étrangères. Alors, si c'était des langues qui sont très connues, on serait encore plus content parce que ça nous aiderait dans notre boulot, mais parfois ça peut être une langue africaine. Puis je me souviens, un jour, j'étais en train d'intercéder dans ma chambre, et puis soudainement, vraiment, je sentais vraiment que je faisais une prière dans l'onction, puis soudainement, je commence à prier. Et puis j'avais comme un accent, un accent africain. Et puis je savais pas, alors là, j'ai dit n'importe quoi, mais... J'avais comme l'impression, peut-être que je suis en train de prier pour un pays d'Afrique ou pour un serviteur de Dieu d'Afrique en africain. Et c'était marrant parce que c'était comme plus fort que moi, ça me venait avec l'accent. Oh, c'était marrant, je dis, ben, Seigneur, si un jour tu veux que je prie pour Céline Dion, il faudrait que tu me donnes l'accent. Hein. Mais et puis voilà un peu. Donc parfois, bien, on peut avoir comme ça, comme dit la parole de Dieu, des langues étrangères et c'est ce qu'on voit. L'Esprit vient, il donne comme une volonté d'intercéder, de parler autour de soi, comme on le voit dans les actes. Et puis... Dans les actes, on voit que les gens s'approchaient de partout. Ils disaient, mais ils parlent dans ma langue. Alors, si t'étais en chinois, le gars, il commençait à parler. Et puis, il commençait à prier, vous voyez un peu. Et puis, alors ça pouvait bénir. Mais il y a aussi, dans le parler en langue, c'est pas que des langues qui sont connues, des langues étrangères. Il y a aussi ce qu'on appelle la langue de l'esprit. D'autres, les théologiens disent la glossolalie. D'autres disent que c'est la langue de la prière. Qui est une langue qu'on connaît pas, qui est pas une langue qu'on parle par l'intelligence, nous dit la parole de Dieu, mais c'est une langue qu'on parle par l'esprit, par inspiration. Et quand on reçoit l'esprit, c'est souvent un des premiers dons qu'on reçoit, n'est-ce pas? Et qui est en général une des preuves, une manifestation qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Mais il faut pas se tromper théologiquement, parce que dans beaucoup d'églises, ils se sont trompés théologiquement en disant que c'était le seul signe que tu étais baptisé dans le Saint-Esprit. Mais moi, je peux vous dire, en chassant des démons, j'en ai vu qui parlaient en langue. Les satanistes ont un parler en langue. Alors, c'est pas facile à savoir. Donc, pourquoi est-ce que c'est un des premiers dons? Parce que c'est un don qui est plus simple, et puis c'est surtout parce que son champ d'action est le plus petit. C'est le plus petit des dons spirituels dans le sens où son rayon d'action, c'est nous. Parce que la Bible nous dit, on va le lire tout à l'heure, celui qui parle en langue parle pour son édification. On va le lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens 14. Ça veut dire que si tu es mal, et c'est pourquoi dans notre église on veut toujours avoir un temps de prière avant. Et moi je comprends pas les gens qui arrivent exprès à 10h05 au culte. Parce qu'ils disent, oh avant c'était la prière. Mais vous n'avez rien pigé. Hein. Non mais, sérieusement. Parce que Dieu nous a donné la possibilité de venir discipliner notre âme dans la prière. Quand vous vous mettez en prière, vous pensez à tout sauf à prier. Hein. Vrai ou pas? C'est naturel de prier peut-être? Non. Vous savez, le seul moment où c'est naturel de prier, c'est quand on a le feu aux fesses. Hein. Ou quand la maison brûle. Oh bon Dieu, garde s'il te plaît. Garde mon Picasso s'il te plaît. Hein.
Le pasteur Stéphane, à chaque fois qu'il rentre dans sa voiture, regarde mon pique-assiette. Pardon, parce qu'il a un Citroën, Picasso, alors je le charrie toujours. Alors, on pense pas naturellement à prier, donc la Bible dit que rechercher les dons spirituels. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons recevoir aussi le don des langues, c'est-à-dire que c'est de recevoir cette inspiration par l'Esprit. Et vous allez voir qu'un jour, vous êtes en train de prier, et puis, soudainement, ou alors vous vous mettez à prier, puis il y a comme des autres paroles qui commencent à venir. Puis, qu'est-ce que je parle? Et puis, alors, souvent, nous, comme on est toujours éduqués à passer tout par la tête, alors on s'arrête, on dit, oh, c'est quoi? Oh non, ça vient de moi, hein, ça vient de moi, ça ne peut pas venir de Dieu. Et puis si, peut-être que Dieu veut se libérer. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous avons besoin d'être édifiés avant d'agir dans le Seigneur. Et parfois, même avant de faire des choses, c'est bon d'avoir des temps de prière en langue comme cela. Et donc, quand tu le demandes, eh bien, il faut parfois te lancer par la foi. Et je me souviens, moi, je n'osais jamais, hein. Alors une fois, j'étais au tout début de ma vie chrétienne, quand on avait prié pour que je reçoive cette immersion du Saint-Esprit, il ne s'était rien passé à l'église. J'y retourne. Une fois, je me souviens même, j'avais le front en avant comme ça. Je me dis, je vais me mettre comme ça, peut-être en avant, peut-être ça va venir plus vite. Et puis, j'y voulais vraiment recevoir. Puis, il n'y avait rien qui venait. Puis, moi, j'étais là. Alors, tu parles comme si Dieu, il va prendre ma main. Non, j'ai toute ma volonté. Un don spirituel ne retire pas ta volonté. Tu n'es pas en transe. Tu n'es pas comme ça en train de... n'est-ce pas? Et vraiment, ce qui est, il faut savoir que tu es libre. Tu es vraiment libre. Mais il faut aller dans l'esprit. Il faut aller par l'esprit. Et je me souviens, eh bien, quand j'étais seul en train de prier à la maison, j'étais sur ma chaise comme cela. Et puis, à un moment donné, je dis, ben, je vais essayer. Puis si j'ai vraiment reçu l'esprit, ça devrait bien sortir. Mais il n'y avait personne pour m'écouter.
J'essaye. Je dis quelques phrases. Je dis, oh, ça c'est n'importe quoi, c'est facile. Hein.
Mais il y a des études qui ont été faites par des médecins que ce n'est pas possible de répéter sans cesse la même phrase plus que quelques 30 secondes, je crois, ou 2 ou 3 minutes, je ne sais plus vraiment les statistiques, j'avais lu ça un jour, sans que ça devienne répétitif et puis qu'on ne puisse pas dire des choses qui semblent construites. Alors que quand vous allez voir que vous allez recevoir ce don du Saint-Esprit, ben vous allez voir que ça fait comme un discours, comme un langage. Ah, il y en a que ce n'est pas le cas. Hein. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit à ma mère, quand on était tout petit, c'était un peu des gens qui faisaient n'importe quoi, d'ailleurs ils ont mal fini, il disait, ah ben c'est facile, si tu veux parler en langue, tu dis très vite tricote, 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 puis tu vas parler en langue. Hein? C'est grave, hein? Alors nous qui venions des milieux comme ça, où on ne voulait pas laisser les émotions dans l'église, on ne voulait pas traiter comme ça, tac, tac, tac. Je vous dis pas, c'était bloqué pendant longtemps. Hein? Alors à l'église, allez, on y va, on dit tricote, 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 tricote. Ah ouais, t'es inspiré, non, faut pas prendre les gens pour des... Hein? On est d'accord. Mais le don de l'esprit, eh bien, c'est... Le don des langues, c'est quelque chose qu'on a besoin seul et il faut beaucoup le pratiquer parce qu'on en a vraiment besoin. Les autres dons, on va le voir, eh bien, ils s'exercent pour d'autres personnes, pour d'autres, pour un groupe, parfois pour une nation, parfois pour des autorités. Là, je suis en train de prier parce que je crois que Dieu m'a parlé pour un homme politique. Donc, je suis en train de vraiment de prier pour recevoir, pour être sûr, et puis ensuite, je vais lui téléphoner. J'espère qu'il ne va pas m'envoyer en prison hein, si je me plante. Mais si Dieu te donne un don ou quelque chose pour une autorité ou même pour quelqu'un d'autre, il faut déjà qu'à l'intérieur, tu aies déjà pu être édifié. Et souvent, l'âme humaine n'est pas édifiée naturellement. Alors, c'est pourquoi la Bible nous invite à pratiquer ces dons et à désirer les dons spirituels. Parce que souvent, comme on est un peu feignant de nature, notre âme est feignante de nature, elle ne désire pas forcément les choses comme ça, on est bien comme ça. Mais le Seigneur dit non, vous devez désirer les dons les meilleurs, vous devez désirer les dons spirituels. Et ça commence d'abord pour soi et ensuite ça va pour les autres. Parce que les dons spirituels, je le répète, c'est pour le bien commun. Alors, la manifestation du parler en langue, eh bien, est très utile parce que la première chose, c'est que grâce à cette langue, on peut parler à Dieu. Je vais prendre un texte dans 1 Corinthiens 14. On avance un petit peu et on va lire 1 Corinthiens 14. Ainsi, recherchez avant tout l'amour et aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non pas aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit, mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, il les encourage et il les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue est le seul à en tirer un bienfait pour sa foi,
mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans sa foi. Je veux bien que vous sachiez tous parler en langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile à celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un traduit pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Donc là, on voit bien que l'apôtre Paul dit que c'est très important que tout le monde parle en langue, mais l'utilité doit aussi faire que le Saint-Esprit devienne un don de puissance pour bénir les gens. On va lire ce texte, je pense, j'avais pas prévu, mais je crois qu'on va le faire en entier avec toute notre attention, parce que c'est très important. Supposez, frère, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans ces langues inconnues, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tiriez-vous de ma présence? Voyez ce qui se passe pour des instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Comment reconnaîtra-t-on que la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments, la mélodie jouée, s'ils ne se rendent pas des sons distincts? Et qui se préparera pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair? Il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous voulez dire si en utilisant ces langues inconnues, vous prononcez que des paroles inintelligibles? Vous parlerez en langue. J'ai déjà vu des gens qui aimaient, ils étaient tout excités, ils se parlaient en langue entre eux. Alors bon, parfois, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on peut parfois, quand on est entre nous, comme ça, peut-être s'adresser comme ça, ça m'est déjà arrivé, mais c'est vraiment très rare, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'avais eu des gens qui venaient, puis ils commencent à parler. « Ah, ishakarabiriki son do rumba, ki ningirima sindalaya. Ah, ki la karima la kene. » Puis ils s'amusaient comme ça dans l'église. Bon. Je dis pas une fois si t'es dans... Parfois, vous savez, on est dans le rire de l'esprit, on est dans une onction spéciale. C'est pas toujours, parce qu'on peut pas... C'est pas une doctrine, mais bon, parfois, on peut comme ça se communiquer d'esprit à esprit, spirituellement. Mais en réalité, faut pas faire n'importe quoi. Et à l'époque, eh bien, ils étaient tellement contents d'avoir ce don-là qu'ils parlaient partout, comme ça. Puis ils montraient à tout le monde. Ah, alors t'imagines, tu vas au boulot, tu vas voir ton patron, tu dis, eh, viens voir, tu sais que je parle une langue étrangère, puis tu lui parles en langue, il va dire, mais t'es complètement jeté, toi. Hein? Il va dire, mais ça va pas, non? Hein, tu es gendarme? Chut, arrêtez-vous. Il va pas comprendre, hein. Alors, comme dit la parole de Dieu, ça sert à rien. Vous parlez en l'air. Il faut que tout soit utile. La Bible dit d'ailleurs, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut donc éviter ce qui n'est pas utile. Alors, il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune n'est dépourvue de sens. Mais si j'ignore le sens des mots utilisés par mon interlocuteur, je serai un étranger pour lui. De même, il le sera pour moi. Donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, j'aimerais pouvoir dire de chacun d'entre nous et de moi aussi, d'aspirer ardemment aux choses du Seigneur. Recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Ça, c'est important. C'est pourquoi celui qui parle en langues inconnues doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il a dit en langage incompréhensible. Car si je prie en langues inconnues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Que ferais-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai des louanges à Dieu, de Dieu avec mon esprit, donc il faut chanter en langue, n'est-ce pas, dans l'église, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. D'accord? Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l'auditeur non averti assis dans ton assemblée pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? Ta prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne le grandit pas dans sa foi. Et c'est là où il faut comprendre que l'Église doit être ordonnée. Parce qu'il y a des gens, ils veulent les dons spirituels que pour les dons spirituels. Ils vous invitent à des conventions où vous savez que c'est juste pour passer du temps, à se marrer, à faire des choses comme ça. Et puis finalement, à la fin, personne n'est édifié. Et puis, il n'y a pas des choses sérieuses qui se passent. Les dons spirituels ne sont pas un but en soi. Je peux répéter cela? Les dons spirituels ne sont pas un but. Elles sont un moyen pour faire grandir qui? L'Église. On vient de le lire trois fois. Trois fois, il vient de dire, c'est pour faire grandir l'Église. Si tu veux faire quelque chose qui ne fait pas grandir l'Église, ferme ta bouche. J'ai rien à dire. Donc, c'est très important.
c'est très important. Alors que ferai-je donc? Nous dit la parole de Dieu. Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Et on revient au texte où on était. Je remercie Dieu de ce que je parle en langues inconnues plus que vous tous. Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire les autres plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger les choses. Pour le mal, soyez des petits-enfants, c'est-à-dire innocents, mais pour le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. Il est dit dans l'Écriture, « Je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère par des lèvres d'étrangers, et même alors ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Ainsi, les paroles en langue inconnue sont un signe du jugement de Dieu. Elles concernent non pas les croyants, mais ceux qui ne croient pas. Les prophéties, elles au contraire, sont un signe de faveur de Dieu. Elles s'adressent non pas aux incroyants, mais à ceux qui croient. Et on verra ce que c'est la prophétie. Les gens, ils croient que la prophétie, c'est toujours dire l'avenir. C'est pas ça, la prophétie. On en parlera la semaine prochaine. D'accord ? En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent dans des langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison ? Si au contraire, tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu dans son péché et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée ? Les secrets de son cœur seront mis à nu, alors il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera « Certainement Dieu est présent au milieu de vous ». Et quand on parlera des paroles de connaissance et des prophéties, eh bien moi je vous assure, c'est un des meilleurs moyens pour que les gens viennent à Christ, parce que les gens savent que Dieu les connaît plus que tout. Tout ce que vous faites doit servir à faire grandir l'Église dans la foi. Si c'est pour râler, pour faire d'autres choses, ça va pas. S'il y a des problèmes, ça va pas. C'est pourquoi il faut un ordre. Alors il nous dit, comment donc agir, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, chacun fait ce qu'il ressent dans le Seigneur. Mais il faut venir voir les serviteurs. On va le voir, c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, il dit, celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Celui-là donnera une interprétation. Et que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Si l'on parle dans des langues inconnues, que 2 le fassent, ou tout au plus 3, l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. Et s'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don de langue garde en silence dans l'assemblée, et qu'il se contente de se parler à lui-même et à Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole, et que les autres jugent ce qu'ils disent, ceux qui n'acceptent pas qu'on juge leurs paroles prophétiques sont des faux prophètes. Parce que c'est la Bible qui dit, si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit savoir se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans la foi, car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Je vous répète cette parole, les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. En effet, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et comme dans toutes les églises, ceux qui appartiennent à Dieu, alors après, il parle des femmes aussi, on va passer un peu cela, je voudrais pas que vous m'en vouliez, les sœurs, hein, parce que ça, avant de lire ce texte, il faut l'expliquer. Mais le but, c'est de parler en langue aujourd'hui. Alors on continue au verset 38. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. En résumé, frères, recherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas à ce qu'on parle dans l'Église des langues inconnues. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Amen. Donc, il y a les deux choses. On ne peut pas dire, ben maintenant, on ne fera plus que des prophéties et plus de parler en langue. La Bible dit, vous ne devez pas empêcher qu'on parle en langue, mais vous devez d'abord rechercher plus la prophétie, parce que la prophétie, c'est d'un autre niveau, et c'est quelque chose qui va édifier les autres. Donc, dans l'Église, quand on parle tous ensemble en langue, comme cela, quand je vous dis, allez, on va commencer à parler en langue, en prière, etc., eh bien, c'est simplement parce qu'on édifie notre esprit. On est en prière, et là, ça y est, on s'édifie soi-même. Et en s'édifiant soi-même, on commence à abandonner, comme disait le pasteur Alexandre tout à l'heure, lâcher les fardeaux, lâcher les préoccupations, et on se concentre sur les choses de Dieu. Et hop, ça y est, c'est comme si on passe d'un autre niveau. Vous avez vu, au début, aujourd'hui, il y avait la louange d'un certain niveau. À un moment donné, on a senti, là, ben non, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils ont un peu de mal à s'y mettre, là, comme ça. Hop, on s'est mis à prier. Christine m'a dit, pasteur, viens prier. On a prié. On a pris autorité. Puis soudainement, comme si tout d'un coup, vous êtes un peu ressaisi. Un peu comme quand on saisit un peu, n'est-ce pas, une viande, alors on saisit notre esprit, comme ça, qui se concentre sur les choses de Dieu. Et puis là, soudainement, on est montés tous ensemble et on a eu une louange extraordinaire. Moi, j'avais des frissons partout aujourd'hui, pas vous? Hein, amen, hein. Alors, et puis là, on est monté, puis c'est parti, puis après, là, il y a commencé à avoir des chants spontanés, il y a eu la révélation qu'il fallait prier, il y a eu encore un autre moment donné, il fallait que nous rappeler qu'on était tous ensemble un corps, comme une armée, les uns et les autres sont venus. Et puis là, ça y est, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Amen. Et moi, je veux voir la puissance de Dieu dans mon église. Et même, ça ne viendra pas, la puissance de Dieu, si vous êtes là, et bon, le ministère, il faut qu'il vienne du pasteur. Ah, il n'a pas donné de parole de connaissance aujourd'hui. Hein. Puis, est-ce qu'il a prié? Tu crois qu'il est encore en forme, notre pasteur? Là, il n'est pas un peu foutu, hein, un peu. Mais c'est pas ça, l'église, c'est toi. Et toi, qu'est-ce que tu fous? Pardonne-moi de parler comme ça. C'est la même chose. Que tout se fasse afin que grandisse l'église. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. Et que pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui se passe. Alors, on peut parler à un moment donné quand on s'édifie, mais après, eh bien, si quelqu'un commence à parler tout seul en hauteur devant tout le monde ou prend le micro pour vous parler en langue, parce que ça c'est possible, n'est-ce pas? On a le frère Daniel, il a reçu un peu ce don-là, souvent il a des paroles inspirées comme cela, puis parfois il reçoit aussi l'interprétation. Eh bien, la parole de Dieu dit, ben attendez, c'est comme si tu prends le micro, puis tu commences à parler à tout le monde en langue. Ah, barakendara machine, dereko, romba masendere. Puis à la fin, je vous dis, c'était bien le message. Ouais. Donc la Bible dit, dans ces cas-là, quand quelqu'un s'adresse à l'assemblée, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc il y a le parler en langue de l'édification de soi, ce que j'appelle la langue de la prière, qui nous fait du bien, et c'est pourquoi nous devons prier. Mais la Bible vient de le dire, je viens de vous lire. S'il n'y a pas d'interprète pour dire les choses comme ça publiquement, eh bien qu'il prie et qu'il le garde pour lui-même. Relisez, c'est bien écrit. Et donc dans ce cas, il se tait et il le garde pour lui-même, ou alors il prie en parler en langue comme ça. Et donc comme nous, on est un peu comme une armée, on a la culture dans l'église de que chacun s'édifie un peu là où vous êtes, chacun sur sa chaise, et puis du coup, ça fait un peu comme tout un peuple qui s'édifie. D'accord, mais c'est pas la même chose que le message des langues qui est comme cela. Et tout à l'heure, spirituellement, j'ai demandé que quand on prie spirituellement et on prenne autorité en espagnol, c'était comme un geste prophétique pour dire que là-bas, ceux qui, comme ils parlent espagnol, eh bien voilà, au nom de Jésus, ils obéissent à la prière qu'on faisait aujourd'hui par la foi. C'était un acte spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ensuite, eh bien, par contre, la Bible dit que nous devons adresser des messages de puissance, des messages de Dieu, et à ce moment-là, c'est l'importance de la prière. Et il ne faut pas que les paroles deviennent incompréhensibles et puis qu'il se passe n'importe quoi. Donc, je répète et je termine sur la question du parler en langue, et je crois que je m'arrêterai là aujourd'hui. Et si vous voulez, on va prier pour être renouvelé dans ce don tout à l'heure. Mais en parlant ainsi à Dieu, on parle en esprit et non pas avec l'intelligence. Et c'est quelque chose qui est très important à comprendre, surtout pour nous qui avons été formés à tout raisonner dans nos écoles. Et c'est pour ça que c'est un don qui est difficile à garder. C'est que comme ça ne passe pas par l'intelligence, on a beaucoup de mal. Parce qu'on a l'impression de déraisonner. Et quelque part, c'est un peu vrai, puisqu'on arrête de raisonner. N'est-ce pas? Mais justement, la vie de la foi, c'est parfois de faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Un jour, je me souviens, le Seigneur m'avait parlé, il m'a dit, tu donnes ton salaire complètement. Ça fait flipper, hein? Parce que tu dis au Seigneur, ouais, ben moi je donne mon salaire, mais le banquier ne me le donne pas, lui. Hein? Et la facture, elle est la même. Mais Dieu voulait m'apprendre quelque chose. Et donc là, si je raisonne, ben je ne la donne jamais, hein? C'est pareil pour la dîme. Hein. Pourquoi c'est spirituel la dîme? Si tu raisonnes, tu ne peux pas la donner. Avec la crise économique qu'il y a actuellement, l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation de l'euro et tout ça, tu arrives à la fin du mois, t'es ric-rac. Le gasoil maintenant, ah ben en plus il y a le gasoil. Hein. Ben Seigneur, je mets le gasoil dans ma voiture, moi je ne mets plus dans l'offrande. Hein, parce que comme ça, moi je viens dans ton église, tu as la chance que moi, le grand moi, je vienne t'adorer. Ah, je sais qu'il y en a qui ont pensé à ça, hein, avec l'augmentation de l'essence. Hein. Oh là, rah, cassé, comme disent Brise de Nice. Ah, 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 ah. Oh, il nous a visé, le pasteur. Oui, je vous ai visé avec amour. Et hop, une petite tape sur les fesses, c'est pour que vous ne tombiez pas dans une malédiction. Mais mes amis, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un pas de foi. Si tu n'apprends pas à marcher par la foi, tu ne peux pas avoir la puissance de la foi. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il faut apprendre l'obéissance. Pourquoi c'est bon d'obéir dans l'église, d'obéir aussi à ses serviteurs et que nous-mêmes nous obéissions aux nôtres?
c'est parce que ça nous apprend à nous abandonner et à ne pas tout contrôler. Et ça nous apprend à marcher par la foi. C'est pour ça que c'est un secret. Quand j'ai compris, après un petit bout de temps de ma vie chrétienne, le secret de l'obéissance et de la soumission et de la marche par la foi, ça a bouleversé ma vie. J'ai vécu des expériences extraordinaires et puis j'ai pas perdu mon autorité ni mon libre arbitre. Bien au contraire, ça n'a fait que grandir. Mais Dieu va nous appeler à marcher par la foi. Et donc, il faut bien apprendre. Et le parler en langue, eh bien, c'est une des choses qui nous apprend à marcher par la foi. Parce que si tu commences à tout raisonner, tu ne parleras jamais en langue. Et puis, si tu commences à ne jamais y aller par la foi, ben, ça va faire beaucoup de gens. Souvent, là, tout à l'heure, on va prier pour les dons. Puis, il y en a qui vont être comme ça. J'ai rien pour un pasteur. Non, ça ne vient pas. J'ai rien reçu. Alors, mais c'est pas pour me moquer, parce que moi j'ai été comme ça pendant longtemps. Ah, mais c'est pas comme ça, parce que Dieu veut que nous marchions par la foi. Et il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et souvent, mais il a fallu qu'on fasse comme un petit pas de foi, en disant, bon, alors je mets ma tête de côté. Puis je vais croire que cet esprit qui est en moi, qui ne veut que s'exprimer, je le laisse s'exprimer.
Parce que si tu le laisses s'exprimer, il va pas donner parfois que des paroles en langue. Parfois il va dire, hé, ton caractère,
Et voilà, c'est ça, c'est l'apprentissage de la marche par la foi. Et c'est ça qui est formidable. Et ensuite, eh bien, tu vas commencer par ça, puis après tu vas recevoir un autre don spirituel. Puis un jour tu vas dire, tiens, c'est bizarre, je me suis réveillé cette nuit, puis j'ai vu telle chose sur telle personne, je la voyais un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Puis boum, puis tu vois que Dieu va te parler. L'autre jour, ils sont pas là, les frères et sœurs, mais le Seigneur m'avait parlé que le diable voulait détruire complètement leur voiture. Ils venaient d'acheter une nouvelle voiture, je les ai vus. J'ai vu une image spirituelle de la voiture cratcher, puis je ne pouvais pas le dire avant, je l'ai dit qu'au culte. Et puis du coup, ben, ils avaient déjà eu un premier accident dans une autre de leur voiture, mais ça a évité la deuxième parce qu'ils ont fait attention, puis ils ont prié, on a pris autorité. Donc après, tu vas voir que le don spirituel va être pour les autres, afin de bénir. Un jour, le Seigneur me parle, puis je dis, tiens, c'est bizarre, il y a un homme d'affaires qui veut faire un investissement de 30 000 euros. C'est dans les jours qui viennent, et ne faites pas parce qu'il y a un vice sur le matériel que vous voulez acheter. Et il y a un frère qui s'approche, il me dit, pasteur, c'est incroyable. Je devais signer pour un élévateur, une grue élévatrice, et ça coûtait 30 000 euros. Oh ben, je vais faire gaffe. Et il ne l'a pas acheté. Et il avait mieux vérifié, puis en fait, il y avait un truc caché derrière, il aurait perdu beaucoup d'argent. Dieu l'a béni, amen. Je lui dis, purée, t'as du bol toi, hein, parce que Dieu garde tes affaires. Donc après, les dons spirituels, ça va être aussi pour les autres, mais... Quand on parle en langue, on parle à Dieu en esprit. Et donc, c'est une communication nouvelle, directe, qui est vraiment une bénédiction. Par exemple, tu es en voiture, tu peux très bien t'entraîner à parler en langue pendant 10 kilomètres, tu parles en langue. Et tu peux le faire puisque ton intelligence reste prudente sur ce que tu fais, mais ton esprit est en prière. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, priez sans arrêt, priez sans cesse. Ben, on va dire, je peux pas prier sans cesse. Quand je mange mon beefsteak, ça fait pas bien, hein. Mais c'est pas comme ça, c'est que tu peux être dans une attitude de prière. Puis soudainement, pomme, il se passe quelque chose. Vous voyez? Et puis après, vous allez entrer, ça va vous introduire dans d'autres dons. Et c'est pour ça que quand on est baptisé du Saint-Esprit, un des premiers signes, c'est le parler en langue. Parce que c'est le plus facile. Puis c'est surtout celui qui nous édifie nous-mêmes. Mais ça veut pas dire que c'est le seul signe. Parce qu'il y a plusieurs dons. Tu peux avoir un don et pas forcément les autres. Une autre chose, la Bible nous a dit, on l'a lu tout à l'heure, que ces langues permettent de louer Dieu. Donc c'est la langue de la louange. Donc il est bon de louer Dieu, de chanter en langue aussi, parfois, au verset 14. Et puis au verset 17, il nous dit aussi de rendre grâce à Dieu. Ça veut dire qu'on peut dire merci à Dieu au travers de notre parler en langue. Et ça nous permet de parler à Dieu, dit aussi le verset 2. Puis le verset... Ensuite, il dit aussi de demander à Dieu, ce qui est au-delà de notre intelligence. Parce que la Bible dit que parfois, nous ne savons pas, dans Jacques, ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. On ne sait pas. Parce que si on se laisse aller, on demande toujours les mêmes choses. Seigneur, une femme. Seigneur, un homme. Seigneur, si. Puis on ne sait pas ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon. Seigneur, que mon patron me donne une augmentation. Mais ça tombe, Dieu voulait autre chose pour toi que dans cette entreprise. Donc parfois, tu ne sais pas vraiment ce qui est bon de demander à Dieu. Donc tu peux le faire aussi par l'esprit et prier comme cela par l'esprit. Et la Bible nous dit que le parler en langue exprime des mystères que notre intelligence ne peut pas saisir. Et donc que Dieu va nous donner des révélations comme ça sur des choses qu'on doit faire. Par exemple, moi je parlais en langue, j'étais à genoux dans mon salon en train de prier en langue. Et puis, soudainement, c'est comme ça que j'ai eu comme la vision du CD Éternité qui est venue. Si je n'avais pas parlé en langue, mon esprit intérieur n'aurait pas découvert le mystère qui résidait dans ce CD. Vous comprenez? Puis après, c'est devenu une idée. Puis après, je me suis arrêté. Moi, je suis toujours avec mon palme quand je prie. Mon pocket PC, pardon. Avant, j'étais avec mon carnet. Maintenant, je suis avec mon pocket PC. Et puis, parfois, je m'arrête. Puis, je note une idée. Et puis, quand j'ai passé un bon temps de prière, normalement, j'ai au moins, je ne sais pas combien d'idées. Alors après, il y a des gens qui disent « t'as des idées tout le temps ». Ben, il n'y a pas que moi. C'est le Saint-Esprit, c'est de sa faute. Hein. Et puis, je les note pour ne pas oublier. Ou tiens, ce que je dois dire à telle chose. Ou tiens, ce que je dois améliorer, etc. Et peut-être, parfois, tu es en prière comme ça. Puis, à un moment donné, ben, ton esprit t'inspire. Tu as une idée, là, c'est ton intelligence qui prend le relais. Et pam, 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 pam. Et là, tu vas commencer à devenir utile. Et tu vas devenir puissant. Et donc, c'est important de rechercher les mystères de Christ. Et la Bible nous dit surtout, et c'est vraiment une des choses les plus importantes, que en pratiquant les nouvelles langues, la Bible le dit mot pour mot, on s'édifie soi-même. Donc ceux qui n'apprennent pas à prier en langue ne peuvent pas prendre parfois position dans des moments difficiles, où ils se laissent aller. Ça va ? Non, ça va. T'as prié en langue ? Oh ben non. Ben ça se voit. Une fois, ça n'allait pas du tout avec Maria, je peux le dire ma chérie, hein. Puis elle était vraiment mal ce jour-là et tout ça, puis ça n'allait pas, puis alors elle se plaignait, puis elle me disait toujours là, alors j'essayais de trouver une explication, ça ne le plaisait pas. Ah, non, pourquoi tu me dis ça? Ben, j'essaye. Hein. Puis alors après, un peu plus tard dans la journée, je dis une autre explication. Ah, non, ça. Je dis, oh, j'en ai marre, hein, va prier. Parce que je ne peux plus rien faire pour toi, je suis que ton mari. Et ce jour-là, je me souviens toujours, hein, on en parle souvent de cette expérience, elle est allée prier. Et puis, je suis sûr qu'elle a prié en langue, etc. Puis après, elle revenait, elle pleurait. Oh, le Seigneur m'a parlé, etc. Ta-da. Puis ça allait mieux. Puis soudainement, elle avait compris un truc, pourquoi elle souffrait intérieurement. Elle avait réussi à se libérer. Puis vous savez, ma femme, souvent, quand elle prie, elle pleure et tout. Oh, tout ça comme les Argentines. Moi, j'aime bien ça. Et puis, alors elle revient comme ça. Elle dit, oh, mon chéri, tout ça. Puis le Seigneur l'avait parlé comme ça. Et puis, elle s'était édifiée elle-même. Alors les hommes, au lieu de râler, parfois dites à votre femme, va prier, ou les femmes aussi. Hein. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, on dit, ah, non, j'en ai rien à foutre, et tout, hein, etc. On râle un peu quand c'est comme ça, on n'aime pas écouter les bons conseils de nos femmes qui nous disent d'aller prier. Ah non, il n'a pas encore marqué le deuxième but, alors. Hein. Allez, je vais terminer, ne partez pas maintenant. Dieu nous fait cette grâce de nous accorder l'édification de notre être intérieur par le moyen des langues, vous m'entendez bien? C'est-à-dire que c'est la grâce d'édifier notre homme spirituel. Quand tu parles en langue, tu n'es pas en train d'édifier ton homme charnel, tu édifies ton homme spirituel. C'est celui qui est en nous depuis la conversion et qui a besoin d'être chaque jour fortifié et affermi afin que ce soit notre homme spirituel qui soit à l'œuvre, qui dirige nos vies, nos pensées et non plus notre vieil homme charnel entaché de ses péchés. C'est très important. D'ailleurs, quand on a des tentations, on a été chrétien, puis on est tenté par une autre fille, on est tenté par se montrer aux copains, ou dans le business, on n'ose plus affirmer, ou avoir une droiture, ou plein d'autres choses comme ça. Oui, aïe, aïe, c'est que notre être charnel, là, il est en train de revendiquer. Comme disait Luther, je crois que c'est Luther qui disait ça, au baptême, j'ai noyé mon vieil homme, mais le bougre, il nage bien. Hein. Alors on va l'enterrer pour ceux qui ne sont pas fait baptiser, mais faites gaffe, parfois il veut remonter, il a une bouée de sauvetage. Hein. Et puis donc, bien sûr, si c'est pour nous, c'est aussi parfois, le parler en langue peut être aussi parfois pour les autres, c'est déjà arrivé. Je me souviens un jour, j'étais à l'école et puis on était dans un temps de prière et puis une fille a commencé à prier, cette fois-ci c'était comme de l'allemand, j'étais surpris, hein. Il y avait l'accent allemand et tout. Et puis là j'ai reçu l'interprétation. Et ça a vraiment sauvé une famille. Vous voyez, donc, ça peut aussi servir à d'autres. Et si vous sentez que vous avez besoin, il faut que ça lâche comme ça, vous commencez à parler en langue, mais il faut une interprétation. Donc, il est important que tout ne soit pas fait n'importe comment dans l'Église. C'est pourquoi la Bible nous demande d'interpréter, mais on en parlera la prochaine fois. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous dit que tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. Et le Seigneur nous invite à travailler en équipe ensemble et à accepter que dans l'Église, il y a quelque chose. Donc, il ne faut pas ne pas parler, parce que ça, c'est grave. N'est-ce pas, mademoiselle Kennec? Quand on reçoit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le pasteur ou le président du culte. Parce que Christelle reçoit plein de choses ces derniers temps. Amen. Ah, je veux savoir ça. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, nous, les Normands,
oh ben, je ne sais pas si ça vient de Dieu. J'ose pas. Puis je vais peut-être me tromper.
Oui, mais c'est de l'orgueil que de ne pas vouloir se tromper. Et comment tu peux savoir si c'est de Dieu si tu n'as personne qui te pèse et qui vérifie si ça vient de Dieu? Comment tu peux savoir? Tu ne peux pas. Donc, il faut parler. Alors bon, si le jour, la semaine prochaine, on aura la queue le avec un ticket, ah, moi je ne sais pas ça, moi je ne sais pas ça. Bon, je ne sais pas comment je ferai, mais la Bible dit on peut le faire tous successivement. Bon, on ne va pas non plus exagérer, mais pourquoi pas. Puis souvent, ce qui se passe quand quelqu'un reçoit une parole, l'autre a reçu quelque chose qui confirme, etc. C'est souvent, parce qu'il y en a qui croient que Dieu, quand il donne des paroles, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais Dieu, quand il donne des paroles, ça y est, il a donné à lui. Mais moi, je suis convaincu que ça ne marche pas comme ça. Moi, je suis convaincu que c'est comme une radio. Allô, allô, église d'Honfleur, allô, allô. Ici, attention, l'ennemi va attaquer sur le flanc gauche. Vous m'entendez, répondez, s'il vous plaît, répondez. Oui, et puis,
alors, il y en a plein qui râlent là, comme ça. Puis il y en a d'autres qui sont comme ça dans la louange. Puis il y en a d'autres comme ça qui sont en train de penser, bon, ben, qui termine, hein, ce pasteur, parce que moi, j'ai envie d'aller prendre mon apéro. Et puis,
au contraire, il y a ceux qui apprennent. Alors, faites-le avec moi, faites comme ça. Tout le monde fait comme ça? Non, pas comme ça. Hein. Comme ça. Allez-y, on fait. Allez, vas-y, on fait comme là. Voilà, on cherche les antennes. On met les antennes là. Vous voyez ce que je veux dire? On monte là-haut. Et puis, ah, tu veux pas le faire? Allez, vas-y, fais-le quand même. Allez, allez, toi aussi, fais-le, Nathan. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que dans l'église, il y a ceux qui ont appris à mettre les antennes. Demain, la semaine prochaine, ils vont me faire la blague, ils vont arriver tous comme ça. Pasteur, je suis prêt. Allez-y, on remet les antennes. On remet les antennes. Mettez les antennes.
Attention, église d'Honfleur, attention. Pou, 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 pou. Attention, est-ce que vous me recevez? Ah, vous me recevez? Ah, ah, il y en a qui reçoivent, j'entends. Allô, vous me recevez, église d'Honfleur? Allô, ici le Saint-Esprit. Allô, vous me recevez? Ah, ils m'entendent. Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le message est fini.
Et donc, je crois que si on apprend spirituellement un maître, eh bien, quand Dieu va parler, eh bien, on va recevoir la même chose. Alors, bien sûr, on va le dire autrement. Bon, attendez, c'était une blague, je termine quand même ma conclusion. Hein. On va le dire autrement. Parce qu'on va le dire avec nos filtres, avec nos convictions. Si le pasteur Stéphane donne une prophétie, il la donne avec son style. Et moi, quand je donne une prophétie ou quand je ministre, j'ai besoin de mon style. Il faut retrouver mes vieux chants. Alors là, je suis bien dans le Saint-Esprit. Et puis le pasteur Stéphane, quand il reçoit quelque chose, « Oh, Seigneur !» Et on sait que il a besoin, parce qu'il faut que ça passe comme ça, il faut que ça sorte comme ça. Il est expressif. Amen. Et il est latin. Alors, peut-être qu'il va dire comme le même sentiment de l'esprit, mais il le dira de son style. Amen. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'accepter qui nous sommes, et nous devons travailler ensemble, et nous devons dire les choses du Seigneur. Et vous allez voir qu'il suffit juste d'apprendre à être ouvert, à mettre les antennes spirituellement, et les dons vont venir tout seuls. Il faut juste apprendre à attraper ce qui est en train de se passer dans le monde invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, ça marche aussi pour les autres dons spirituels. Mais vous aimez bien qu'on parle de la puissance de Dieu et des dons spirituels? Vous voulez qu'on continue? Pas aujourd'hui. Hein. Amen. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Oula, il est tard. Alors, on va faire une chose. Levez-vous, s'il vous plaît. La semaine prochaine, dites-le à l'église. Et préparez-vous dans le jeûne et la prière, si vous voulez bien. Marie-Louise dit, oh le jeûne, notre âme ne va pas être contente. Hein? Mais au moins, si vous pouvez jeûner au moins le samedi soir, ou le samedi toute la journée, puis vous venez préparer pour le culte. Si vous voulez jeûner plus, vous pouvez jeûner plus. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse faire une communication de puissance et un culte de puissance la semaine prochaine. Où on va demander au Seigneur de recevoir les dons spirituels. Amen. J'aimerais demander à Karine et à Yanis de venir de s'approcher devant, après, parce qu'il faut que je les voie absolument. Et maintenant, je vais demander au Seigneur que pendant cette semaine, il puisse vous donner, vous remplir de cet esprit, de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, comme il est très tard, je ne vais pas prier pour vous aujourd'hui, je voudrais juste demander à nos bien-aimés, à qui j'ai promis de faire une onction d'huile pour la guérison, de s'approcher, s'il te plaît. Mais nous allons avoir un temps maintenant de silence. Je peux continuer avec la musique. Seigneur mon Dieu, ces vases d'honneur que nous sommes se tiennent devant toi. Parce que nous voulons recevoir ta puissance. Nous voulons recevoir de ton onction. Nous voulons recevoir ta grâce. Et mon Dieu, je viens en guerre par l'autorité que tu m'as donnée en Jésus contre toute timidité mal placée, contre toute gêne qui ne vient pas de Dieu. Seigneur, ce qui dans notre culture n'est pas sanctifié est un instrument du malin. Et même si nous sommes fiers d'être normands, Seigneur, pour les qualités que revêt notre peuple, nous savons aussi que nos hésitations sont un péché et nous voulons les confesser devant toi aujourd'hui. Car Seigneur, ce qui nous pèse, ce qui nous juge, c'est les serviteurs de Dieu et ça n'est pas nous-mêmes ni notre voisin, mais c'est ta parole. Et donc nous voulons apprendre. Est-ce que tu veux apprendre à marcher par l'Esprit? Qui veut apprendre à marcher par l'Esprit? Il faut que d'ici, de cette église, se lèvent les gens qui auront de la puissance de Dieu. Et je prie mon Dieu que malgré l'affliction, aucun esprit de découragement ne vienne sur nos vies. Et que ce soit l'homme intérieur, l'homme spirituel au nom de Jésus qui soit élevé. Au fond de nous-mêmes, Seigneur. Et je brise tout esprit d'abattement dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, ta puissance est là. Et nous voulons grandir par la foi. Nous voulons nous édifier, Seigneur. Nous voulons parfois éteindre la radio dans nos voitures. Et plutôt que d'écouter les grosses têtes ou d'écouter rire et chanson, eh bien parfois nous voulons aussi, Seigneur, prier en langue. Plutôt que d'écouter, Seigneur, nos CD, parfois, eh bien, nous voulons simplement, Seigneur, t'écouter, toi. Et nous voulons recevoir de toi, Seigneur, mon Dieu. Alors, au nom de Jésus, que ta grâce et ta paix soient communiquées à chacun d'entre nous. Communique les dons spirituels. Et cette semaine, mon Dieu, que nous puissions nous préparer à recevoir pour la semaine prochaine la puissance et l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu vous soit communiquée pour toute cette semaine. Que Dieu vous protège, il vous permette de vivre par l'Esprit, de vivre heureux, de prospérer à tous égards. Je vous bénis, ma chère Église, que j'aime tendrement. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Alors, bien-aimés, je veux respecter, mais la semaine prochaine, je donne déjà la recommandation. On va vraiment se laisser aller dans la louange, mais on va commencer plus tôt. Et je veux vraiment que la semaine prochaine, on va vivre un culte de puissance. Et on va se préparer pour vivre la gloire de Dieu la semaine prochaine. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, levez la main. Vous êtes d'accord? Si vous voulez téléphoner aux uns, aux autres, vous leur téléphonez qu'ils soient là la semaine prochaine. Et on va communiquer les dons spirituels. Amen. Et nous, les pasteurs, on va se préparer dans le jeûne, la prière, dans la consécration à l'onction et au Seigneur. Et on va vivre. Alors, mais vous aussi, je vous demande de vous préparer dans la prière. Dimanche prochain, au lieu de vous lever à 9h-10, vous levez beaucoup plus tôt le matin et vous essayez de passer le plus possible du temps pour vous préparer. Et vous venez à l'église, non pas non préparé, mais vous venez déjà prêt à recevoir de Dieu. Et à dire, Seigneur, comme disait Marie, moi je ne comprends pas pourquoi l'ange de l'Éternel se révèle à moi. Je ne comprends pas. Marie, elle avait 15 ans, elle était dans sa chambre là, elle ne demandait rien à personne, c'était une petite inconnue. Et quand le Saint-Esprit l'a choisie, elle a dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de dire ça à Dieu? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors, venez préparer et dites-le au téléphone à ceux que vous voulez qu'ils viennent pour recevoir la semaine prochaine. Et on va demander que les dons que Dieu veut vous donner, il puisse les donner. Les qualités qu'il veut multiplier sur vous, il puisse le faire. Les paroles de prophétie, les paroles de miracle, les paroles de guérison, la danse, la louange, le service dans l'église, l'hospitalité, la générosité. Je ne sais pas ce que Dieu vous donnera, mais Dieu va vous donner. Alors maintenant, officiellement, le culte est fini, mais ceux qui veulent recevoir quand même la prière, vous pouvez vous avancer, n'est-ce pas? Et les pasteurs maintenant vont être en prière avec vous. Et on va prier quand même pour vous. Mais officiellement, pour ceux qui doivent y aller, le culte est fini. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Mais on va quand même rester en prière pour ceux qui ont besoin de la prière. Je demanderai aux pasteurs et aux épouses des pasteurs de venir aussi préparer. Puis on peut mettre aussi le CD, s'il te plaît, que je t'ai donné tout à l'heure. Je ne sais pas où il est, le Stéphane. Et puis comme cela, Hélène va pouvoir venir à prier aussi, imposer les mains avec nous. Alléluia. Amen.